Et c'est drôle parce que, comme par hasard, le titre du message que j'aimerais partager et enseigner ce matin s'intitule « La lumière du monde ». Dieu fait bien les choses, hein? C'est que l'affaire, c'est que je m'entends bien avec moi-même, donc je me suis dit « C'est des lumières du monde, pourquoi pas un message de lumière du monde? » Mais ce matin, j'aimerais enseigner pour quelques minutes sur ce thème qui est la lumière du monde. J'aimerais lire deux textes avec vous, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans l'évangile de Jean. Jean, qui est le troisième plus beau nom dans la Bible. Le premier, c'est Jésus. Le deuxième, évidemment, vous le savez, c'est Luc. Ensuite, c'est Jean. Benoît, c'est pas dans la Bible. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis, j'entends des bibles tourner, ah ça me fait un feeling extraordinaire, sans blague, là. J'apprécie le fait d'entendre des bibles, des gens qui tournent des bibles, il n'y a pas tellement, j'arrive d'un voyage en Suisse, et puis j'arrive dans un groupe, j'ai fait un rassemblement de jeunesse, je dis si vous avez vos bibles, j'avais pas la projection, je dis si vous avez vos bibles, tournez avec moi, et personne n'avait de bibles. Alors je me sentais un peu mal, tout ça, je dis oh, qu'est-ce qu'on va faire? Et là je voyais du monde avec quelque chose dans la main, j'ai réalisé. J'ai dit, si vous voulez tourner avec moi dans votre iPhone, dans Jean chapitre... Tout le monde avait la Bible dans leur iPhone. Là, j'ai réalisé, on est vraiment en 2010. Mais là, j'étais à Trois-Rivières, donc on est revenu en 83. Non, c'est pas vrai. OK. Je vais prêcher, prêche. OK. Merci beaucoup. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Luc chapitre 4, verset 18 et 19, Jésus sort d'un jeûne de 40 jours, et là il va annoncer sa mission, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ce matin, j'aimerais partager un message sur Jésus. J'aimerais parler de Jésus, la lumière du monde. Et vous savez, je crois qu'on a besoin de parler plus de Jésus. On prêche beaucoup l'Église, et c'est bien, mais je crois qu'on a besoin de parler plus de Jésus-Christ. À chaque fois que je parle de Jésus, que je prêche et que j'adresse le nom de Jésus, il se passe quelque chose. C'est le nom qui surpasse tout autre nom. C'est le nom qui est le plus puissant dans l'univers. C'est le nom de la lumière du monde, Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup le concept de la lumière, le principe de la lumière dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas comprendre la lumière à moins d'avoir été dans les ténèbres. Et quand vous avez été dans les ténèbres, vous voyez, et que vous voyez la lumière, vous comprenez encore plus les ténèbres. Et vous savez, il n'y a rien de plus puissant dans les ténèbres qu'une lumière. Je sais que vous avez plein de gens ici qui sont allés à Haïti, puis vous êtes beaucoup impliqués sur Haïti. Et j'ai eu la chance d'aller à Haïti à quelques reprises dans ma vie, mais j'oublierai jamais la première fois que je suis allé à Haïti. On est arrivé là-bas le soir, on est arrivé en fin d'après-midi, et l'organisateur qui organisait le voyage avait quelques légers problèmes d'organisation. Et il a décidé de nous faire partir de Port-au-Prince vers les Cayes à 7 heures le soir. Il faut savoir que c'est 100 km entre Port-au-Prince et les Cayes. 100 km, plusieurs vont dire, c'est pas beaucoup. Mais en Haïti, 100 km, surtout sur cette route-là, ça veut dire 10 heures de route. Je ne savais pas avant. Des fois, c'est mieux de ne pas savoir les affaires avant. Et là, on part, on était 7-8 pasteurs dans un genre de petite minivan. On part sur la route. À 7 heures le soir, la nuit tombe et tu vois rien. Il n'y a pas des boulevards avec des lumières. Il fait noir, tu vois rien, des ténèbres totales. Et là, on roule sur cette route et il y a des trous. Tout ça, à un moment donné, on avait mis les bagages sur le camion, sur le toit du camion. Et à un moment donné, on a frappé un trou. Tous les bagages sont tombés à terre sur le bord de la route. Et là, on sort du camion, on commence à remettre les bagages sur le toit. Et ce qui devait arriver, arriva. Les phares de la van lâchent. On est loin, on est dans le milieu de nulle part. Là. On est aussi loin du départ que de l'arrivée. Et là, les ténèbres totales, les phares avant ne fonctionnent plus. On ne peut pas rester là, c'est très dangereux où on est. On ne peut pas rester là. Et là, il s'est passé quelque chose de spécial. Dans mes bagages, j'ai jamais eu ça avant dans toute ma vie et j'ai jamais eu ça après dans ma vie. J'ai eu ça une fois dans ma vie, dans mes bagages. Cette fois-là, j'avais une lampe de poche de police. Vous savez, des longues lampes de poche qui éclairent comme des fous. Et là, tout le monde est paniqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, hey, je pense que j'ai une solution. Je sors une lampe de poche. Et là, tout à coup, je suis devenu le héros du groupe. Et là, il y a un des gars de l'équipe qui est monté sur le toit du camion avec la lampe de poche comme ça, puis il a éclairé le chemin. Alors, si ça vous tente de vous lancer dans l'émission, on a toutes sortes d'implications disponibles pour vous. Le gars, il savait pas quand il s'est impliqué qu'il était pour éclairer. Et là, il a éclairé le chemin avec la lampe de poche et ça nous a sauvés, ça nous a permis de nous rendre à destination. La puissance de la lumière dans les ténèbres. Et c'est exactement ce que Jésus peut et veut faire pour vous ce matin dans les ténèbres, peut-être dans lesquelles vous êtes en ce moment. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu dans une période de ténèbres. Le peuple vivait sous une loi, les Juifs vivaient sous une loi qui les gardait prisonniers et captifs, qui n'arrivaient pas eux-mêmes à vivre et à respecter. Ils étaient sous le joug de l'Empire romain qui les gardait, qui les écrasait. Ils étaient sous un joug, c'était une période de noirceur. Et Jésus est arrivé, et c'est intéressant de voir que quand Jésus, les premiers qui ont été conscients de la venue de Jésus, qui étaient les mages, ont été conscients, et on leur a dit que Jésus viendrait comme une étoile. Ils ont suivi une étoile, une lumière dans le ciel. Et c'était le commencement. Et quand Jésus est arrivé dans une époque de ténèbres. Et très souvent, Jésus intervient dans la vie des individus lorsqu'il fait noir dans nos vies. Et peut-être que vous êtes ici ce matin, peut-être que vous êtes ici pour une première fois, vous avez été invité par quelqu'un, ou peut-être que vous venez ici toutes les semaines, mais la vérité, c'est que peut-être que vous êtes en ce moment dans les ténèbres, dans le noir. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus est la lumière du monde, il veut briller dans votre vie. Et si le temps le permet, ce matin, on m'a dit que j'avais jusqu'à 3 heures cet après-midi, donc si le temps le permet, j'aimerais regarder avec vous, c'est une blague, j'aimerais regarder avec vous deux ou trois choses, selon le temps, deux ou trois choses que la lumière du monde, Jésus-Christ, peut faire pour vous. La première chose qu'il peut faire pour vous, la lumière guérit les cœurs brisés. Et j'aimerais relire encore une fois Luc chapitre 4, verset 18. Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si vous étudiez le Nouveau Testament, vous allez vous apercevoir qu'à plusieurs reprises, Jésus est intervenu pour des gens, des individus qui avaient une situation de cœur brisé. Vous savez, un cœur brisé, la particularité d'un cœur brisé, c'est qu'il est possible de le dissimuler, de le cacher. C'est très facile de cacher un cœur brisé. Et moi, à travers les années de prédication et de tournée un peu partout, souvent je vais dans des assemblées comme ici ce matin, et on chante des chants, les gens tapent des mains, sourient, lèvent des mains, la joie et tout ça. Et pourtant, à la fin des réunions, souvent je vais faire une invitation, et il y a souvent des gens qui viennent pleurer en avant, brisés, contrits. Pourtant, une heure avant, ils étaient en train de taper des mains dans la joie, la réjouissance et tout ça. Et c'est très facile de dissimuler un cœur qui est brisé et de le cacher. Et pourtant, Jésus a la capacité de voir, avec sa lumière, il est capable de voir le cœur qui est brisé. Mais beaucoup de gens s'habituent à vivre et à cacher un cœur qui est brisé. C'est très, très facile de dissimuler un cœur qui est brisé. Il y a quelque temps de ça, j'ai fait un voyage dans les Antilles, et une des choses que j'aime beaucoup là-bas, c'est que quand on fait des réunions, souvent ils vont attitrer un chauffeur, une personne qui va te conduire. Lui, sa mission pour le week-end, c'est de te conduire. Il t'attend après chaque réunion, il conduit. Et là, le pasteur m'avait dit, à 5 heures, ton chauffeur va venir te chercher. Et là, je suis prêt avec ma guitare, tout ça. Et tout à coup, arrive devant l'endroit où j'étais logé, arrive une superbe BMW avec des mags, avec l'armor on sur les mags. La peinture brillait, c'était... Wow! Ça a attiré mon attention vraiment. J'ai dit, wow! Mon chauffeur vient d'arriver. Gloire à Dieu! Et là, le gars, il sort tout ça, puis il dit, il souhaite la bienvenue. Il dit, viens avec moi. Là, je mets mon équipement dans la voiture. Je monte dans la voiture. Et il faut comprendre, c'est les Antilles. C'était le mois d'août, je crois. Une période où il fait très, très chaud. Il devait faire 35 degrés avec humidité, 500% d'humidité. Une chaleur incroyable. Et là, je monte dans la voiture. Les quatre fenêtres étaient baissées de la voiture. Et là, on commence à rouler, tout ça. Puis là, j'avais costume, cravate, tout ça. Et là, je dis, est-ce que vous pourriez mettre un peu de climatisation? Il dit, ah, je suis désolé, elle ne fonctionne pas. Et là, on se promène dans le BMW, ça chaîne dehors, mais on crève en dedans. Et là, on a une heure de route. Et là, moi, vous savez, on n'est pas habitué. Nous, alors, je transpirais, c'était épouvantable. J'avais des pizzas en dessous des bras. Tout. Et là, à un moment donné, j'ai dit, est-ce qu'on peut écouter un peu de musique, tout ça? Il dit, ah, je suis désolé, le radio ne fonctionne pas. OK. Et là, à un moment donné, on roulait sur une route en ligne droite. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. La voiture, le châssis de la voiture était brisé. C'est-à-dire que la voiture était comme de côté, comme ça, mais elle roulait. Elle roulait comme ça. On était assis comme ça vers la route, mais c'était comme ça que ça avançait comme ça. Et à chaque fois qu'on prenait un trou, la suspension était brisée. À chaque fois qu'on prenait un trou, on faisait ça pendant une demi-heure. La BMW, de l'extérieur, ça flashait cette affaire-là. Mais tout était brisé. Et il y a des fois, dans nos vies, c'est la même chose. Tu rencontres la personne, waouh! Mais à l'intérieur se cache un cœur brisé. C'est pareil comme c'est la période de l'année où les gens vendent leur maison. Ici, on vend les maisons et on achète une autre souvent. Et moi, je me souviens la première fois que j'ai vendu ma maison, la plus grande terreur, c'est quand l'inspecteur vient pour inspecter la maison. Vous savez, la vente d'achat conditionnel à l'inspection. Et là, tu as le gars qui arrive à l'inspection, et lui, il regarde. Moi, quand je regarde une maison, je rentre, waouh, c'est beau, le plancher, les armoires, le terrassement, waouh, c'est parfait, c'est beau, on la jette. Mais l'inspecteur, lui, il regarde pas la maison comme ça. Il se promène avec un genre de petite lampe de poche fatigante, là, puis il va à des places que toi-même qui vis dans la maison depuis des années, tu n'as jamais été. Il cherche avec sa lampe des fissures, il cherche des choses, il inspecte et il voit ce que le monde en général ne voit pas. Et la lumière du monde, c'est un peu ce qu'elle fait également. Elle vient, et alors que nous cachons le cœur qui est brisé parfois, la lumière brille et elle vient rayonner et elle voit le cœur qui est brisé dans la vie de l'individu qui veut le cacher. Et on voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on voit Jésus le faire. On voit à un moment donné Jésus arriver auprès d'une femme prostituée. Et à l'époque du Nouveau Testament, il faut comprendre qu'à cette époque-là, c'était l'une des pires affaires que tu pouvais faire. Et c'était très, très mal vu. Et les gens pouvaient te lapider à cause de ça. Et ils ont essayé de lapider. Il y avait un groupe de gens qui étaient là pour lapider une femme prostituée. Et là, Jésus est arrivé. Et Jésus a vu le cœur brisé de cette femme-là. Il n'a pas vu sa condition de péché. Il a vu son cœur. Il a vu derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus a mis sa lumière sur les autres qui voulaient lapider. Et Jésus a dit, pas de problème, vous pouvez lapider, mais juste avant que celui qui est sans péché lance la première pierre. Parce que la lumière avait vu les cœurs des gens qui étaient là autour également. Il n'y a pas personne qui a lapidé. Et cette femme-là a été libérée. Son cœur a été guéri. À un autre moment donné, on voit Jésus arriver devant la femme samaritaine auprès du puits pour prendre de l'eau. Il faut comprendre qu'à l'époque, les Juifs n'avaient aucune communion avec les Samaritains. Il y avait un racisme entre les deux, il y avait une haine entre les deux. Et en plus, les femmes ne s'adressaient jamais à un homme dans un endroit public. Jésus, lui, avec sa lumière, il va toujours briser, il va toujours venir à l'encontre des cultures ou quoi que ce soit. Jésus est au-dessus de tout ça. Il va arriver, il va voir cette Samaritaine, il va lui permettre de lui parler. Et la dame commence à parler. Vous savez, des fois, les gens, celui qui parle le plus de fois dans une pièce est souvent le plus faible. Et elle commence à parler pour essayer de cacher son cœur. Elle se met à parler, elle parle. Et là, elle se met à parler de son mari. Jésus dit, non, attends une minute. Il dit, le mari que tu as là, c'est pas ton mari. Puis en plus, tu en as une méchante gang avant, le mari. Et là, wow, il a changé complètement le scénario de la situation. Et Jésus va atteindre le cœur de cette femme. Pour vivre une vie que cette femme avait eue à cette époque-là, d'avoir plein de maris comme ça, il a fallu que cette femme vive des douleurs, des souffrances dans son cœur. Jésus a vu au-delà du, excusez l'anglicisme, mais le front. Et Jésus a vu au-delà de l'image qu'elle a voulu laisser paraître. Jésus a vu le cœur avec sa lumière. Jésus voit le cœur brisé. Le cœur qui est dans les ténèbres. Et ce matin, peut-être que vous êtes avec nous en ce moment et votre cœur, à vous aussi, est dans les ténèbres. Vous savez, il y a tellement de cœurs qui sont dans les ténèbres. Alors que je voyage un peu partout dans le monde, constamment, je rencontre des cœurs, des vies, des gens qui ont le cœur dans les ténèbres. Je pense à un ami que je me suis fait en Europe il y a quelques années, qui un jour m'a appris qu'il est arrivé à la maison chez lui un soir. Et quand il est arrivé à la maison, il y avait un texto de son épouse. Pas une lettre, pas une rencontre, un texto de son épouse qui lui annonçait qu'elle était partie, qu'elle ne reviendrait plus. Et il n'y a plus eu de nouvelles de son épouse pendant des mois. Brisé complètement. Cœur brisé complètement. Un cœur dans les ténèbres totales. Cet homme que j'ai rencontré après une réunion, en faisant une tournée, je rencontre un monsieur qui vient me voir après une réunion, qui me raconte comment un chrétien qui avait ramassé ses économies, puis qui a rencontré un nouveau chrétien dans l'église, un homme d'une autre église qui s'est joint à son église, puis qui avait un projet d'affaires. Il a tout pris ses économies d'une vie, il les a investis dans ce projet d'affaires-là, mais finalement, c'était une fraude. Il a tout perdu au complet, ses économies. Un monsieur brisé complètement, un cœur brisé. Combien de jeunes, je travaille avec les jeunes depuis des années, combien de jeunes avec le cœur brisé par le divorce de leurs parents? Cette femme, on est à table dans un restaurant, cette femme avec son époux qui sont là, qui est une madame, le cœur brisé, parce qu'elle ne peut plus voir son fils ni ses enfants, parce que le conflit a pris dans la famille, puis l'épouse de son fils ne veut plus rien savoir de la belle-mère, entre guillemets. Et cette femme-là était au restaurant devant nous, brisée complètement, le cœur brisé. Complètement par une situation familiale. Des gens au cœur brisé, des mariages qui s'effondrent, des cœurs brisés, des cœurs qui sont dans les ténèbres. Et peut-être que ce matin, c'est votre situation, vous êtes en ce moment dans les ténèbres, ça ne paraît pas, vous le cachez, vous le dissimulez, vous ne le dites pas à personne. Peut-être que vous venez à l'église, vous mettez le masque de la personne pour qui ça va bien, mais Dieu a vu ton cœur ce matin. Dieu voit votre cœur, Dieu voit le cœur brisé. Il m'a envoyé ici pour vous dire qu'il est la lumière et qu'il veut guérir le cœur qui est brisé. Il est capable de guérir un cœur qui est brisé ce matin. Il y a quelques années, je faisais une tournée en Europe, puis j'ai logé chez une famille chrétienne, des gens extraordinaires, vraiment des gens... Tout le monde est super, mais il y a des gens, des fois, qui sont un peu plus que les autres. Et on a vraiment eu du plaisir tout le week-end, ils faisaient des blagues, puis on sentait l'amour dans ce couple-là, puis on sentait la joie dans la maison. Puis à la fin, moi j'aime ça interroger les gens que je rencontre, puis poser des questions, j'aime ça apprendre de ceux pour qui ça marche. Vous savez, c'est super d'apprendre, c'est bien d'apprendre des gens, mais c'est encore mieux d'apprendre de ceux pour qui ça marche, n'est-ce pas? Et je leur dis, comment ça que vous êtes heureux? C'est quoi le secret de votre bonheur comme ça? Et là, on commençait à me raconter un peu leur vie, et à un moment donné dans la conversation, il y a eu un moment émotionnel. Le monsieur me racontait qu'avant de connaître Dieu, il avait son épouse, son enfant, ils sont partis en vacances en auto, et il s'est endormi au volant. Il s'est réveillé 2 semaines plus tard à l'hôpital, couché dans le lit d'hôpital, tout cassé, brisé à plusieurs endroits dans son corps. Et là, les gens sont venus le voir quand il a repris conscience. 2 semaines plus tard, on lui a dit que son épouse était dans une autre pièce, tout cassé, elle aussi, et que ça faisait 2 semaines qu'elle avait fait la funéraille de son enfant. Laissez-moi vous dire que dans le top 3 des pires affaires qui peuvent arriver dans ta vie, c'est pas mal au top, ça. Et t'as fait 2 semaines, tu te réveilles, ton enfant, ils ont fait la funéraille, ton épouse est brisée de l'autre côté. Un monsieur, là, le cœur brisé, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un comme ça pour l'encourager? Il n'y a rien que tu peux faire pour quelqu'un. Il me dit, Luc, il dit, c'est difficile à expliquer, mais pas tellement longtemps après cet événement terrible, on a rencontré le Seigneur. On a rencontré Jésus-Christ, la lumière du monde. Il dit, c'est dur à expliquer avec des mots, mais c'est le Seigneur a guéri notre vie. Il a guéri notre cœur. Aujourd'hui, on est heureux, on a la joie, puis on est libéré de cette chose. Wow! Alors ce matin, je ne sais pas quelle est l'épreuve dans laquelle vous êtes, je ne sais pas l'état de votre cœur, mais si votre cœur est dans les ténèbres ce matin, Jésus, seulement Jésus, pas l'église de Trois-Rivières, pas l'église baptiste, pas un pasteur, pas un leader chrétien, seulement et uniquement Jésus qui est la lumière, a vu ton cœur et ce matin, il a la capacité de guérir un cœur qui est brisé. Amen. La lumière guérit le cœur qui est brisé. Deuxièmement, la lumière libère le prisonnier. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 19, Jésus dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Un peu plus loin, ça dit qu'il est venu pour renvoyer libres les prisonniers. Et moi, j'aime énormément le concept de la liberté. Mais vous savez, pour les habitants des gens qui vivent en 2010, c'est un concept qui est un petit peu difficile à comprendre parce que c'est un peu différent de l'époque du Nouveau Testament. Mais à l'époque du Nouveau Testament, le concept de la liberté était quelque chose de très, très pertinent pour les gens parce qu'à l'époque, il y avait plein d'esclaves. C'était commun, les gens étaient entourés, les gens avaient des esclaves, il y avait des esclaves. L'apôtre Paul écrit même à des chrétiens esclaves. Donc, il y avait beaucoup d'esclaves. Et quand quelqu'un à l'époque qui était libre, un homme libre, dans le contexte du Testament, c'était quelqu'un qui était extrêmement riche. C'était le plus beau trésor que tu pouvais avoir d'être libre. Et Jésus parle d'une liberté encore plus grande que la liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Jésus amène le concept de la liberté et de la prison. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une prison, mais c'est quelque chose. Moi, à cause du ministère, j'ai eu l'opportunité d'aller plusieurs fois dans des prisons, chanter dans des prisons, prêcher à des prisonniers, tout ça. Mais à chaque fois que je sors d'une prison, il y a tout un feeling de... Je prends une grande inspiration. Ouf, je pense que je ne ferai jamais de crime. À chaque fois, je me dis, le crime ne paie pas. Quand tu vois les murs, les gardiens avec des armes, les barbelés, chaque porte est barrée. Un jour, je suis allé pour une fête de Noël pour les prisonniers, où certains prisonniers avaient le droit d'avoir leurs épouses et leurs enfants qui venaient. Et là, on a eu une soirée où on était avec les prisonniers, on sentait de la joie. Mais laissez-moi vous dire que quand les gardiens ont dit « c'est fini maintenant » et que là, les épouses et les enfants sont partis, il est venu un « down » dans la place. Je vous dis, ça ne se décrit pas. Tu as senti une lourdeur puis une tristesse. À Noël, là, tout, c'est fini, la soirée est finie. Les enfants s'en vont, les épouses s'en vont. Mais vous autres, les gars, vous restez dans la prison. Puis il y en a qui sont là pour 10 ans, 20 ans, 25 ans en prison. Il est venu une lourdeur, les ténèbres d'une prison, la pesanteur d'une prison. Et quand tu sors, toi qui es libre, tu sors et tu goûtes à la liberté, c'est incroyable. Et je crois ce matin qu'il y a des gens parmi nous qui sont en ce moment dans une prison. Jésus parle d'un autre genre de prison. Il parle d'un monde qui sont prisonniers des ténèbres. Et je rencontre constamment, à toutes les semaines, je rencontre des gens qui sont prisonniers des ténèbres. Et peut-être, je suis certain qu'il y en a ici ce matin parmi nous, des gens que vos chaînes ne paraissent pas avec les yeux de l'homme. Mais le Seigneur, lui, avec sa lumière, a vu vos chaînes. Et il est venu pour rendre libres les prisonniers. Il y a des gens qui vivent dans la prison des ténèbres. La prison des ténèbres prend toutes sortes de formes. La prison des ténèbres, c'est se lever le matin, pour certaines personnes, avec le poids. Il y a des gens qui se lèvent le matin avec le poids de l'univers sur leurs épaules. Il y a des gens qui n'ont plus envie de se lever le matin tellement sont écrasés par le poids de leur vie. Ils sont dans la prison des ténèbres. La prison des ténèbres, c'est quelqu'un qui pense constamment à son futur. Et à chaque fois qu'il pense au futur, il a plus envie de mourir que de continuer. Ça existe. Il y a des gens comme ça. Je connais même un leader chrétien qui me partageait à un moment donné que c'était tellement ténébreux dans sa vie, qu'il était en avion, puis il souhaitait que l'avion s'écrase, tellement que ça allait mal, tellement qu'il était dans le noir, tellement qu'il était prisonnier, tellement qu'il était captif. La prison, vivre dans la prison des ténèbres, c'est quelqu'un, comme il y en a beaucoup trop ici au Québec en ce moment, quelqu'un qui a tout dépensé ses économies dans le jeu compulsif, puis qui là, il faut qu'il trouve un moyen de dire à son épouse qu'ils vont perdre leur maison. Imaginez, là, il y a des gens comme ça en ce moment qui vont sur l'Internet puis qui jouent à des casinos, des choses comme ça, puis ils dépensent, ils loadent des cartes de crédit puis qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire, ils sont dans la prison des ténèbres, sont en train de tout perdre et sont liés. Ils ne veulent pas le faire, mais sont liés, sont prisonniers, sont dans le noir en ce moment. La prison des ténèbres, c'est des gens qui sont paranoïaques au point de penser que tout le monde les haït, tout le monde est contre eux autres. Il y a des gens comme ça, tu as beau leur dire, non, on t'aime, personne m'aime. Et qui vivent prisonniers dans le noir. La prison des ténèbres, c'est des gens qui sont captifs, liés par des choses secrètes dans leur vie, qui sont en train de les consumer, qui sont en train de les détruire, et qui ne sont plus capables d'arrêter, et qui sont dans les ténèbres totales. On les voit au travail, on les voit à l'église, on les voit dans différents contextes, ça ne paraît pas. Mais eux le savent, qu'ils sont dans les ténèbres. Si vous êtes dans les ténèbres ce matin, prisonnier, vous le savez. Votre épouse ne sait peut-être pas, votre épouse ne le sait peut-être pas, votre voisin, votre compagnon, la personne qui était ça à côté de vous en ce moment ne le sait peut-être pas, mais le Seigneur, lui, avec sa lumière, voit vos chaînes. Et il est venu pour libérer les prisonniers. Vous n'avez pas besoin ce matin de passer une journée de plus dans votre prison. Le Seigneur a la capacité, la puissance de vous rendre libre. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'aimerais dire ceci ce matin, ce que la liberté n'est pas. La liberté, ce n'est pas un compte bancaire rempli. Il y a des gens qui pensent que si un jour je peux avoir mon compte bancaire rempli, je serai enfin libre. Je connais plein de gens qui sont très riches, qui ont beaucoup d'argent, puis qui sont complètement prisonniers dans les ténèbres quand même. ne veux pas vous décourager, là. Mais la liberté, ce n'est pas un compte bancaire rempli nécessairement. La liberté, ce n'est pas d'être son propre patron. Il y a des gens qui disent « Ah, oh, je suis tanné de ma job, si je peux enfin être mon propre patron, être entrepreneur, être travailleur autonome, je serai libre. » Laissez-moi vous dire ceci, c'est très très bien d'être entrepreneur, être son propre patron, il n'y a absolument rien de mal. Mais la plupart des entrepreneurs et propres patrons que je connais travaillent plus que n'importe qui. On a de la misère à prendre des vacances. Vous, l'employé, quand il prend des vacances, il est payé, il a sa paye de vacances. L'entrepreneur, quand il prend des vacances, il n'en a pas de paye. Donc, il n'en prend pas de vacances. Il est libre, mais il est prisonnier. Certains, en tout cas. Donc, ce n'est pas nécessairement la liberté. La liberté, ce n'est pas d'avoir des possessions matérielles en abondance. Il y a des gens qui disent, oh, je peux avoir telle bébelle, telle affaire. Il y a quelqu'un qui dit, la prospérité, c'est en avoir plus, la liberté, c'est en avoir moins. Vous savez, tu peux être prisonnier de tes bébelles. Hein? Faut changer l'huile sur le skidoo, faut changer l'huile sur la moto marine, faut acheter ci pour ça, faut le Winnebago, la tente, le bateau, la maison, les maisons, et là, plein de soucis, plein de tourbillons. C'est comme le gars qui était à pêche, il était en train de pêcher. Puis à un moment donné, il y a un entrepreneur qui arrive à côté du gars, il dit, « Hey, t'as pas pensé que de t'acheter un bateau, puis tu pourrais partir en bateau, puis pêcher beaucoup plus de poissons? » Il dit, pourquoi je ferais ça? Bien, en pêchant beaucoup plus de poissons, tu pourrais acheter plusieurs bateaux, et là, tu pourrais multiplier l'achat des la pêche, et là, tu pourrais tellement avoir de poissons que tu pourrais démarrer un magasin de poissons. Et là, avec ce magasin-là, il ferait tellement d'argent que tu pourrais démarrer des franchises, puis là, tu pourrais vendre plein de poissons. Puis le gars dit, bien, pourquoi je ferais ça? Bien, là, tu auras assez d'argent, tu auras une liberté, tu pourrais aller à la pêche. Mais c'est ça que je fais en ce moment! Si quelqu'un n'a pas compris, vous l'expliquerez après la réunion. La liberté, ce n'est pas nécessairement d'avoir une retraite prospère. Il y a plein de gens qui passent toute leur vie à se dire, un jour à ma retraite, j'aurai de l'argent et je serai libre. Puis le jour avant la retraite, paf, c'est fini. Ou bien, il y a des gens qui vivent, qui pensent que leur retraite prospère, ça va les rendre heureux et libres. Peut-être, mais pas nécessairement. Moi, je me souviens un jour, Marie-Josée et moi, on est allés à Tahiti. Tahiti, ça, c'est spécial. C'est là-bas que Dieu habite. Et on s'en allait le dimanche matin en route vers l'église. On passe de. Juste, imaginez, le dimanche matin, tu as les fenêtres baissées, un beau vent chaud. Et là, tu es en route vers l'église et on côtoyait une super baie d'eau turquoise. Et là, il y avait en plein milieu, il y avait un immense voilier gigantesque. Et sur le pont avant du voilier, il y avait un genre d'avion hélicoptère sur le devant du bateau. Et là, moi, nous autres, on s'en va à l'église, puis je regardais ça, puis il y avait un soleil, puis l'eau, incroyable. Et là, je dis, waouh, il y en a qui font vraiment des super vies. Ça serait le fun d'aller faire un tour sur un bateau comme ça. Je dis ça à mon épouse. Et là, on s'en va à la réunion. Après la réunion, j'étais avec des musiciens, tout ça. Il y a une fille de l'église qui disait, qui est une Française, elle dit, mon père a un bateau dans la baie. Est-ce que ça vous tente de venir passer l'après-midi là? On n'a pas jeûné là-dessus. On a dit, yes, on y va, on est libre. Et là, on arrive là l'après-midi sur un. C'était le fameux bateau. Le bateau de son père, c'était le fameux bateau. Et on passe après un immense bateau avec un genre d'hélicoptère sur le devant du bateau. Et là, le monsieur est à la retraite, puis tout ce qu'il fait, c'est se promener d'île en île dans le Pacifique Sud. Tu dis, waouh! Dans ma vie, j'ai rarement vu un homme aussi malheureux que ce monsieur-là. Amertume, tout l'après-midi, il a juste parlé d'amertume, choqué, frustré. Un homme dans les ténèbres totales. Pourtant, il a une retraite de rêve. Mais il y a des liens sur sa vie, prisonnier des ténèbres. La liberté, ce n'est pas ça. La liberté, c'est ce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté, c'est d'avoir un cœur transformé. C'est de connaître Jésus-Christ. C'est de ne plus avoir de secret dans sa vie, mais que notre vie soit la lumière de Dieu. Et l'apôtre Pierre, il dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et la liberté, c'est de laisser Jésus-Christ triompher dans notre vie. De laisser sa lumière prendre toute la place dans notre vie. Alors ce matin, si vous êtes avec nous et qu'en ce moment, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans le noir, vous êtes prisonnier, il y a des chaînes qui vous tiennent captifs, vous n'êtes pas obligé de les endurer encore. Vous pouvez simplement mettre votre vie sous la lumière de Dieu et dire, « Seigneur, que ta lumière vienne briller dans ma vie. Viens briser mes chaînes. Viens me sortir de mes ténèbres. » Et il peut le faire pour vous ce matin. Amen. La lumière du monde guérit le cœur qui est brisé. La lumière du monde libère le prisonnier. Et finalement, et dernièrement, la lumière du monde libère le prisonnier, je l'ai dit. Mais la lumière du monde ouvre les yeux de l'aveugle. Et un dernier texte de Luc, chapitre 4, verset 19, Jésus a dit, « Je suis venu pour que les pour apporter aux aveugles le recouvrement de la vue. » Et ce principe de voir pour l'aveugle, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que je pense que la majorité d'entre nous ici ce matin, on voit. Mais dans le Nouveau Testament, si vous étudiez le Nouveau Testament, on voit à quelques reprises Jésus intervenir pour un aveugle. On n'a pas le temps ce matin de lire les textes, mais dans Marc chapitre 8, on voit Jésus guérir l'aveugle de Bethsaïda. Et encore une fois, dans le contexte du Nouveau Testament, être aveugle, ce n'était pas comme nous autres aujourd'hui. C'est terrible d'être aveugle aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu as même des ordinateurs en braille, tu as des livres en braille, tu as toutes sortes de technologies pour aider l'aveugle. À l'époque, l'aveugle était livré à lui-même. Et ce qui va être terrible, c'est la personne qui devient aveugle. Quelqu'un qui a déjà vu et qui tout à coup ne voit plus. Ça va être terrible. Et l'autre qui n'a jamais vu et qui ne pourra jamais s'imaginer, qui ne pourra jamais découvrir les beautés de la création. Ça va être quelque chose de terrible. Et Jésus est venu pour apporter la vue aux aveugles. Et moi, le concept de l'aveugle, c'est quelque chose que je comprends un peu, partiellement. Je porte des verres correcteurs depuis l'âge de 2 ans. À 2 ans, j'avais mes petites lunettes. Et j'ai toujours été dépendant de verres correcteurs pour voir. Si vous m'enlevez mes verres correcteurs, je suis fini. Je ne peux pas conduire. Je prêche, mais je ne vois pas à qui je prêche. Je ne suis plus capable de lire mes notes. Donc, je me commencerai à prêcher des hérésies, des folies. Et je comprends jusqu'à un certain point, je suis dépendant de mes verres correcteurs. À chaque matin, j'ai une joie à chaque fois que je mets mes verres correcteurs et tout à coup. Vous savez, de ne pas voir le matin devant le miroir, des fois, c'est un concept qui est intéressant. Mais tout à coup, à chaque fois, ouf, je vois tout à coup. Et c'est quelque chose que je comprends plus, disons. Et ça devait être quelque chose d'incroyable lorsque Jésus touchait quelqu'un et que tout à coup, la personne voyait. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un autre genre d'aveuglement. Et Jésus est venu pour ces gens-là également. J'appelle ça un aveuglement spirituel. Et Jésus est venu pour éclairer ces gens-là avec sa lumière également. Beaucoup de gens deviennent aveugles spirituellement. Il y a des gens peut-être qui sont ici en ce lieu ce matin, vous n'avez jamais vu la lumière de Dieu. J'aimerais vous dire que c'est la plus belle chose que vous pouvez voir dans votre vie. Le jour où j'ai vu la lumière de Dieu, le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai expérimenté ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Je vous le dis, c'était écrit dans la Bible, c'est comme si un voile était enlevé. C'est littéralement ça. Le jour où j'ai donné ma vie à Christ, à Dieu, tout à coup, wow! C'est comme si un nouvel univers s'était dessiné devant moi. Tout à coup, j'ai vu la vérité, j'ai vu la lumière, j'ai vu l'espérance. Mais il y a des gens également, peut-être qu'il y en a des comme ça ici ce matin, mais il y a des gens également qui ont vu, mais tout à coup, à cause de plusieurs situations dans leur vie, perdent la vue. Et il y a peut-être des gens qui sont ici ce matin, vous êtes dans cet état-là, vous ne voyez plus. Vous ne voyez plus le plan de Dieu pour votre vie. Vous ne voyez plus la lumière au bout du tunnel. Vous ne voyez plus d'espoir pour votre situation. Vous ne voyez plus comment faire pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus de futur. Vous ne voyez pas comment vous allez faire pour vous en sortir avec vos enfants. Vous ne voyez pas comment vous allez faire pour ressusciter ce mariage-là. Vous ne savez pas. Vous ne voyez plus. Mais j'aimerais vous dire que Jésus, la lumière du monde, est venu pour redonner la vue aux aveugles. Et si vous avez perdu la vue, ne vous en faites pas ce matin. Lui, il connaît le chemin. Lui, il est la lumière. Et lui, il peut vous éclairer. Je termine avec ceci. J'ai vu quelque chose de très, très touchant à la télé il y a une semaine de ça. Vous savez, il y a les Olympiques. Moi, j'aime énormément les Olympiques. J'ai écouté ça. J'aime ça. Pour moi, c'est des héros, c'est des champions. C'est ces gens-là qui se dépassent. Je trouve ça extraordinaire. Mais vous savez, pour moi, les plus grands héros encore, c'est la suite, les Paralympiques. Et j'ai vu quelque chose d'incroyable. Il y a des skieurs paralympiques qui font la descente downhill aveugles. essayez de faire du downhill, je sais pas comment dire ça en français, la descente rapide, vous savez. Essayez de faire ça avec vos yeux quand il fonctionne. Juste le faire en voyant, c'est quelque chose. Mais là, ils le font aveugle ou presque aveugle. Et là, ils montraient une personne, un champion de downhill qui descend en ski alpin, qui voyait, qui avait une vision de 5%. Et tu le vois descendre, mais ce qui m'a vraiment touché, c'est que son entraîneur, la manière pour que ça réussisse, son entraîneur va en avant de lui, puis là, il descend, et l'aveugle le suit, puis l'entraîneur, il dit tout quoi faire, puis il descend, il faut que l'entraîneur sache qui est en passant, il descend, puis là, il dit, OK, tourne à gauche. Puis là, tu le vois, là, qu'il suit partout. Il fait tout ce qu'il fait. Puis il se rend jusqu'en bas. J'en revenais pas quand j'ai vu ça. Il descend, l'autre, totale confiance. Et lui, il est ses yeux. Il l'éclaire. Puis quand j'ai vu ça, je dis, waouh, c'est pareil comme le Seigneur. C'est exactement comme le Seigneur. Quand on voit plus, il est notre lumière. C'est lui qui éclaire le chemin. Il est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, la parole de Dieu nous dit. Et ce matin, si vous voyez plus d'espoir, vous voyez plus de solution, vous voyez plus comment faire pour sortir de cette situation financière, pour sortir de votre faillite, pour sortir de cette situation de business, vous voyez plus de clients, vous voyez plus de moyens, vous avez pensé, vous avez brainstormé, vous avez viré la situation de toutes les bords, vous voyez plus de solution, j'aimerais vous dire que Jésus, lui, avec sa lumière, il voit une solution, il a une solution et il veut vous ouvrir les yeux ce matin. Si les soucis de la vie, si le péché, si l'amertume, si les déceptions vous ont rendu aveugle, Jésus est capable de vous ouvrir les yeux à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Et cette lumière guérit le cœur qui est brisé, libère le prisonnier et ouvre les yeux de l'aveugle. Amen. J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on puisse fermer les yeux, qu'on puisse se recueillir en terminant cette réunion ce matin. J'ai à cœur de prendre un moment pour prier avec vous. Et je vais inviter l'équipe de louanges, si elle veut bien s'approcher. Pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment très, très important ce matin. J'aimerais qu'on ne soit pas distrait par quoi que ce soit. J'aimerais qu'on ne soit pas distrait par surtout l'après-réunion. Prenons un moment ce matin pour vraiment se placer au pied de la croix. La lumière de Dieu brille dans ce lieu ce matin. Jésus veut briller sur vous. J'aimerais prier pour tous ceux et celles qui sont parmi nous ce matin, qui en ce moment ne voient pas. Peut-être que vous êtes ici, vous avez été invité par un voisin, un membre de la famille, un ami, un compagnon de travail, un époux, une épouse. Et ce matin, la vérité, c'est que vous ne voyez pas Jésus. Vous ne l'avez jamais connu vraiment. Pour vous, Jésus, c'est quelqu'un que vous avez entendu parler à travers l'Église ou quoi que ce soit, mais vous n'avez pas expérimenté cette vision. Vous n'avez pas expérimenté le fait que Jésus ait ouvert vos yeux. Et ce matin, j'aimerais prendre un moment pour prier pour les hommes et les femmes qui sont parmi nous, peut-être en ce moment, qui sont dans le noir, qui ne voient pas. Mais vous dites, j'ai besoin ce matin de découvrir Jésus-Christ, cette lumière. J'ai besoin de la lumière dans ma vie. J'ai besoin de voir. Je n'arrive plus à vivre dans le noir dans lequel je suis. J'ai besoin de Jésus. Je veux lui donner ma vie, mon cœur. Ce matin, je ne fais pas la promotion d'un mouvement religieux. Je ne fais pas la promotion d'une église. Je veux juste vous parler de Jésus qui est venu pour vous. Il est venu pour moi. Et il est celui, le seul qui peut vraiment éclairer votre vie. C'est Jésus. Alors ce matin, si vous dites, j'ai besoin de la lumière du monde dans ma vie. J'ai besoin que Jésus ouvre mes yeux. J'ai besoin de voir la vérité. Si c'est votre désir, votre prière, simplement, sans forcer qui que ce soit, c'est un choix qui est libre. Mais si vous êtes là ce matin, monsieur, madame, jeune, peu importe qui vous êtes, si vous dites, j'ai besoin de la lumière du monde dans ma vie, j'ai besoin de voir la vérité, j'ai besoin de voir Jésus. Là où vous êtes, tout ce que je vous demande, c'est de lever votre main là où vous êtes, puis je vais prier avec vous dans un instant. Levez votre main partout dans cette place. Tous ceux qui ont besoin de la lumière, merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame, monsieur, à l'arrière, en avant, partout, plein de mains qui se lèvent. Dieu, j'ai de la difficulté à voir toutes vos mains.
Mais le Seigneur, lui, les voit sur le côté, monsieur en arrière, partout, en haut. Dieu a vu toutes ses mains. Mais surtout, il a vu vos cœurs. Et dans un instant, je vais prier avec vous. Et la lumière, on va inviter la lumière à venir briller dans votre cœur. J'aimerais également, ce matin, prier pour tous ceux et celles qui sont parmi nous, qui ont un cœur brisé. J'aimerais prier pour que Dieu puisse intervenir et guérir votre cœur. Si vous êtes avec nous, votre cœur est brisé pour une raison ou pour une autre. Une raison que j'ai énumérée ou une autre raison que je n'ai pas énumérée, ça n'a pas d'importance. La vérité, c'est qu'il faut arrêter ce matin d'endurer et de cacher ce cœur qui est brisé. Il faut arrêter cette hémorragie dans votre vie. Et il faut permettre à la lumière de briller et à la lumière d'intervenir et de consoler, de restaurer, de guérir. Alors, si vous êtes avec nous ce matin et qu'en ce moment, la vérité, c'est que votre cœur est brisé et que vous avez besoin d'une intervention de la lumière de Dieu, levez votre main là où vous êtes, on va prier avec vous dans un instant. Partout dans cette place, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à y avoir. On est une famille ici ce matin. Amen. Dieu a vu vos cœurs. Vous pouvez baisser vos mains. J'aimerais prier finalement pour tous ceux qui sont parmi nous, qui reconnaissent ce matin être prisonniers des ténèbres. Je ressens très fort dans mon cœur qu'il y a des gens qui sont vraiment captifs dans ce lieu. Et je crois qu'il va y avoir, en ce 21 mars 2010, ça va être une date de libération, une date qui va changer votre vie. Vous allez vous souvenir de cette date comme un moment, un point tournant où le Seigneur a ouvert la porte de la prison, où le Seigneur a brisé la chaîne. Alors, si vous êtes avec nous ce matin, personne ne regarde autour, c'est personnel. Moi-même, je vais garder mes yeux fermés, ça ne me regarde pas, c'est entre vous et Dieu. Mais si vous êtes ici et vous dites, je suis prisonnier, je suis captif des ténèbres, j'ai besoin de toi, Seigneur, de ta lumière pour me rendre libre, libère-moi ce matin. Là où vous êtes, je vous demande simplement de lever votre main. On va prier ensemble dans un instant. Si vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser maintenant. Alors voici ce que nous allons faire en terminant ce moment. J'aimerais chanter, on a chanté tout à l'heure, j'aimerais le rechanter, Jésus, la lumière du monde. Et alors qu'on va chanter ce chant, j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble, si vous voulez bien. On va se lever ensemble. On va chanter ce chant, pas comme un chant final. On va chanter ce chant comme un chant de commencement de quelque chose. Et on va chanter ce chant, puis on va s'abandonner à la lumière du monde. Et après l'avoir chanté, on va terminer avec une prière. J'aimerais prier particulièrement pour ceux qui ont besoin de voir. Et on va prier cette prière, et je crois que le Seigneur va intervenir dans ce lieu ce matin. Pendant que nos yeux sont fermés, que nous sommes dans cette attitude de prière, j'aimerais faire une prière ce matin. J'aimerais demander à tous ceux et celles qui ont levé la main ce matin, qui ont besoin de voir, qui veulent voir la lumière de Dieu dans leur vie, qui veulent donner leur cœur à Jésus-Christ, qui veulent que Dieu puisse ouvrir leurs yeux. Je vais vous demander de répéter avec moi une simple prière. C'est une prière à travers laquelle on invite Jésus à venir prendre toute la place dans notre vie. C'est une prière où on reconnaît nos péchés, on reconnaît qu'on a besoin de lui. Et vous savez, ce qui est important, ce n'est pas la répétition d'une prière, ce n'est pas une formule magique. Ce qui est important, c'est de faire cette prière avec un cœur sincère. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est la prière, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors j'aimerais qu'on fasse cette prière, mais si vous voulez bien, toute la famille de Dieu, j'aimerais qu'on puisse la prier avec ces personnes. Prions en disant, Seigneur mon Dieu, tel que je suis, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais ce matin que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Sois ma lumière. Ouvre mes yeux. Je veux te voir. À partir d'aujourd'hui, je te laisse toute la place dans ma vie. Sois mon roi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Et jusqu'au bout, je vais te suivre. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te prier ce matin également pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Toutes les personnes qui sont ici, qui sont venues et qui dissimulent un cœur qui est blessé, un cœur qui est meurtri, un cœur qui souffre. Seigneur, toi tu les connais. Tu connais ces cœurs brisés, ces cœurs meurtris. Et je te demande, Père Céleste, de les toucher, de les restaurer, que ta lumière vienne briller dans leur vie et vienne restaurer, rebâtir ce qui est brisé. Je prie également, mon Dieu, pour les prisonniers et les prisonnières, ceux qui sont dans la prison des ténèbres, ceux qui ne peuvent plus par eux-mêmes s'en sortir. Je prie ce matin, Jésus-Christ, que tu puisses briser les chaînes des prisonniers, que tu puisses ouvrir la porte de la prison et que les ténèbres soient changées en lumière ce matin. Tu as vu ses mains, tu as vu ses cœurs, tu as vu chaque personne, Seigneur, qui est dans la noirceur. Mais toi qui es la lumière, toi qui bannis les ténèbres, Seigneur, soit toi qui viens envahir les ténèbres et qui remplace les ténèbres par la lumière, viens dans leur vie ce matin même, Jésus. Viens faire ton intervention et viens les toucher. Père, dans le puissant nom de Jésus, je te demande, le nom qui surpasse tout autre nom. Amen.